Radio Campus Paris.
Est-ce que vous pouvez me dire qui est Nicolas Dupont-Aignan ?
Dupont-Aignan, Alors là, pas du tout, désolé.
Ah non, je connais pas.
Franchement, non.
J'ai déjà vu à la téloche, je vois sa tronche.
Je connais vaguement le nom, je sais que c'est un homme politique.
Ah bah c'est un mec qui fait de la politique, c'est pas un ministre.
Bah oui, c'est pas le maire de hier, non ?
C'est un député.
Le député de l'Essonne, quelque chose comme ça, non ?
C'est un politicien qui est dans un parti centriste.
Je dirais centre-droit.
C'est extrême-droite, non ?
Un peu extrême-droite, un peu patriotique.
Engagé un peu dans tout ce qui est monarchie.
Debout la République, n'est-ce pas ? C'est son parti.
Debout la France, est-ce que ça t'évoque quelque chose ?
Debout la France, c'est pas un parti de gauche ?
Enfin, c'est des vieux, c'est un peu comme l'UMP, je pense. Hein.
C'est un appel à la France qui doit se révolter contre une certaine oppression, je suppose.
Et à un moment, il y a même bloqué, je crois, un péage, un truc comme ça, en disant « Ah, les conducteurs, ils sont pas contents, et sinon, je sais vraiment pas de quoi il parle. »
Je crois que c'est un parti qui se revendique un petit peu anti-système, mais pour moi, c'est plus du blabla qu'autre chose, n'est-ce pas ?
Qui voudrait refermer les frontières et sortir de l'euro.
Il est un peu tourné en dérision. Peut-être qu'il a pas encore beaucoup d'influence en politique.
Il gagne jamais, il perd tout le temps, mais il s'en fout.
Alors Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir, merci
bonsoir.
D'être avec nous ce soir pour vous poser quelques questions sur les régionales dont vous êtes tête de liste en Ile-de-France. Avec moi ce soir, Victor. Bonsoir Victor.
Bonsoir Violette, comment vas-tu ?
Oui, ça va très bien, merci. Et Valentin, bonsoir Valentin.
Bonsoir Violette, bonsoir Nicolas Dupont-Aignan.
Bonsoir
puisqu'il
Valentin.
Puisqu'il est caché derrière le micro de Victor, mais je sais que tu es là, donc tout va bien.
Je suis toujours là.
Tu es toujours là, mais c'est merveilleux. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, en ce moment même, un élu de votre parti, Jean-Pierre Anjalbert, qui est également tête de liste hein, pour les régionales dans le Val-d'Oise, manifeste avec des habitants contre les nuisances sonores, nuisances codées par les couloirs aériens de l'aéroport de Roissy au-dessus du département. Il a également porté plainte directement contre Alain Vidali, le secrétaire d'État au transport, très récemment. Alors, est-ce que vous avez donné consigne aux candidats de votre parti pour mener une campagne offensive, ou bien est-ce la marque des candidats de Debout la France ?
Bah, j'y étais, c'est pour ça que je suis en retard d'ailleurs. J'étais avec lui. Non, c'est que simplement, nous sommes des élus de terrain. Moi, je suis maire depuis, c'est le plus beau mandat, depuis 20 ans déjà. Jean-Pierre Anjalbert est maire aussi. Nous avons une certaine spécificité, c'est pas de la prétention, c'est que nous sommes réélus régulièrement à près de 80% des voix dans des villes de banlieue. Donc j'entendais le public reportage, publicité, pas sûr, mais qui m'amusait. Si dans nos communes respectives de banlieue, il y a des 80% d'électeurs qui votent pour nous, c'est peut-être qu'on n'est pas si mauvais, et en tout cas qu'on a des résultats. Et les nuisances aériennes, il y a tellement d'hypocrisie autour de la COP21, c'est-à-dire qu'on culpabilise les gens d'utiliser leur voiture et on leur demande de couper l'eau quand ils se brossent les dents. Et en même temps, on laisse le secteur aérien polluer autant que le périphérique, sans aucun contrôle. Donc nous, on est des élus locaux, on a envie de changer les choses. Et on a un discours un peu différent. Alors c'est pourquoi d'ailleurs certains ne nous situent pas bien d'ailleurs. C'est
un discours un peu différent, mais également, je le disais, offensif.
Offensif,
porter plainte
oui.
contre un secrétaire d'État.
Mais oui, parce que la santé publique.
Bon,
parce qu'il y a un moment, quand vous protestez pendant des années, quels que soient les gouvernements, face à un système aéroportuaire qui on n'est pas contre les avions, il faut des avions, il faut des aéroports, mais qui ne respecte aucune règle, à la différence de ce qui se passe à Londres, ce qui se passe au Japon, même aux États-Unis. On s'aperçoit, vous savez, on parle tout le temps de la France comme le pays de la bureaucratie, des règles, c'est curieux. Nous sommes le pays de la bureaucratie tatillonne sur les individus et jamais sur les gros intérêts. Et donc nous demandons juste que la santé publique soit assurée à Roissy et c'est l'objet de la plainte pour un moment dire stop. Voilà, vous savez, moi je me présente notamment au régional en Ile-de-France parce que je suis maire d'une ville, j'ai vu passer des gouvernements de gauche, de droite. Et les problèmes ne sont jamais réglés, ils empirent. On n'est pas capable de faire arriver des trains à l'heure, on est dans des rames surchauffées, surbondées, et en même temps, on a des grands partis qui inventent le Grand Paris à 30 milliards d'euros, on nous fait des projets magnifiques, mais ils savent pas entretenir l'existant, et ils nous... Si je devais faire de la démagogie estudiantine,
non, permettez,
je dirais,
ne faites pas de démagogie sur
votre
antenne.
Ils nous enfument, comme disent mes enfants. Donc,
alors les transports donc, en voilà. commun, c'est l'une de vos principales, enfin principales, je ne sais pas, mais en tout cas une de vos préoccupations majeures dans votre programme, qu'il fut difficile de trouver, je vous l'avoue, puisque sur votre site internet, l'onglet
lundi.
Ah, il y sera lundi.
Mais bien sûr.
Alors nous avons quand
Et
même réussi à trouver
des. Vous savez pourquoi je l'ai pas publié avant ?
Non, dites-nous.
Parce qu'aux dernières élections, on publiait les programmes en premier. Et ils nous copiaient
piquer,
tout.
C'est ça
à tout.
Pour vous copier.
Tout. Tout.
Non, mais donc en fait, c'est pour éviter le plagiat.
Nous étions pillés. Donc cette fois-ci, nous l'avons sorti par tranche. Et nous le publions lundi. Nous sortons le programme régional en exclusivité lundi. Nous l'avons publié par tranche sur les transports, sur l'automobile, sur la sécurité, sur l'emploi. Donc on a déjà dévoilé des éléments.
Alors justement, monsieur Dupont-Aignan, sur cette question des transports, vous vous situez à contre-courant des autres candidats en proposant par exemple la gratuité des autoroutes franciliennes, ainsi par exemple que la création de parkings de voitures à proximité des gares RER et des portes de Paris. Ça fait un peu projet pompidolien quand même,
hein,
les grandes transversales qui rentrent
pas
dans
du tout,
Paris.
Ça, c'est la caricature.
Est-ce que vous n'êtes pas un peu à contresens, on va dire, de l'histoire en favorisant le tout voiture ?
Pas du tout. Je n'ai jamais dit qu'il fallait faire du tout voiture. J'ai dit.
C'est un peu le sens de
votre programme, si vous le lisez bien. J'ai dit qu'il fallait réconcilier la voiture et l'environnement. Comment ? J'ai dit d'abord. Il y a un trafic de transit en Île-de-France qui vient du nord de l'Europe jusqu'au sud de l'Europe, qui est un trafic qui occupe 20% des voiries périphériques à 86 qui sont gratuites actuellement. Je ne veux pas les rendre gratuites, elles le sont déjà. Mais les autoroutes qui bordent l'Île-de-France, par exemple, il y a une autoroute qui va de Lille, Saint-Quentin, Troyes-Dijon, que pourraient prendre les camions belges et néerlandais pour aller dans le midi, elle est payante. Qu'est-ce qui se passe ? Ça, tout le monde est capable de comprendre. L'endroit est gratuit en Île-de-France, il est payant autour de Paris. Qu'est-ce que font tous les camions de toute l'Europe ? Ils passent par le périphérique. Est-ce que c'est malin ? Ce que je dis, c'est qu'il faut traiter les vrais problèmes. Ce n'est pas en empêchant les Parisiens d'avoir une voiture qu'on va régler le problème de la pollution complètement. C'est en évitant ce trafic de transit monstrueux. Premier point. Deuxième point, je dis une chose qui est une révolution. On est passé d'un excès pompidolien, trop de voitures, à un excès anti-voiture. Je demande un équilibre et je vais vous donner un exemple. Nous ne sommes pas toujours qu'usagers de transport en commun ou qu'automobilistes. On est un mélange.
À Paris n'ont pas de voiture.
Beaucoup, mais il y a 12 millions d'habitants. Il n'y a pas que Paris dans la vie. Il y a des banlieusards. Et vous savez qu'en Grande Couronne, là où j'habite, 6 millions d'habitants, 6 millions, 70% des déplacements, 70% se vont en voiture. Parce qu'il n'y a rien d'autre.
Est-ce qu'il ne faudrait pas justement développer les transports en commun au lieu de la voiture ?
Mais vous avez totalement raison. Mais il faut un équilibre. Moi, ce que je dis, c'est quand vous êtes en Seine-et-Marne ou en Essonne, qu'il n'y a pas de transport en commun, que vous levez à 6h du matin pour aller bosser, et que vous avez une vieille voiture, vous la prenez, et qu'est-ce que je propose ?
Le Grand Paris ne répond pas à ses attentes.
Pas du tout. Non, il s'arrête à la limite de Paris, de la Petite Couronne. Il ne va pas du tout dans la Grande Couronne. Il y a 6 millions d'habitants qui sont zappés. Je demande, par exemple, que les parkings près des RER ou aux portes de Paris, on fasse des parkings gratuits. Je ne suis pas pour que Paris soit submergé de voitures. Je ne suis pas débile.
On n'a jamais dit ça.
Non, mais si, vous pourriez le penser.
On ne se permettrait pas. Oui, pas sur Radio Campus Paris.
En tout cas, les auditeurs pourraient dire qu'ils veulent tout voiture, il est débile, le pauvre gars, il est réactionnaire. Enfin, je connais la rengaine. Ce que je demande, c'est qu'on arrête l'idéologie. Par exemple, les Verts. Les Verts sont des faux protecteurs de l'environnement. Ils ont inventé les embouteillages la nuit à Paris. Ils ont mis tellement de contraintes, croyant que ça allait empêcher les gens de prendre leur voiture. Ça ne les a pas empêchés. Ils sont en embouteillage et il y a de la pollution. C'est les Verts qui obligent la région à faire payer les parkings près des gares. Moi, je veux créer un parking de 400 places près de ma gare. La région me dit, on vous donne une subvention, mais attention, il faut que vous mettiez un tarif d'au moins 30 euros par mois.
Donc,
c'est débile.
Bitumer un petit peu plus des espaces, non, c'est protéger l'environnement.
Non, c'est pas bitumer. C'est permettre aux gens de prendre les transports en commun, car vous n'avez pas des transports en commun partout. C'est qu'à Paris, on a la chance d'avoir un métro qui marche. Donc, pourquoi on pourrait pas être un banlieusard, venir en voiture près de Paris, avoir un parking et après prendre le métro ? On est utilisateur de mix. Pourquoi pas développer la voiture électrique qui ne pollue pas ? Pourquoi ne pas imaginer des solutions mixtes ? Est-ce qu'on est obligé d'être toujours dans la caricature ?
La voiture électrique, ça va prendre des années à se développer.
Et pourquoi ?
On
peut développer beaucoup plus vite. Par exemple, on ne trouve pas de prise électrique. Moi, j'ai développé Autolib dans ma ville. Donc, vous voyez, je ne suis pas idéologue. Je multiplie les bornes électriques. Je veux qu'on ait une palette de déplacements. Je veux qu'on améliore les bus. Je veux que les gens qui sont loin de Paris... Vous avez 2 millions d'habitants à Paris. Vous en avez 10 ailleurs. Et ce sont les Parisiens qui prennent les décisions pour les 10 millions d'autres. Je veux qu'on pense à ce qui existe, qu'on l'améliore. Je veux qu'on développe les bus en grande couronne. Je veux qu'on ait des tramways qui fonctionnent bien. Et je veux qu'on puisse prendre sa voiture sans être tout de suite désigné comme l'ennemi général. Vous pouvez prendre un soir votre voiture, ça gêne personne. Et pourquoi ne pas le faire ? Il faut arrêter l'idéologie anti-voiture, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut passer dans l'idéologie du tout-voiture, ce serait ridicule.
On va continuer à parler de toutes ces questions après une légère pause musicale. On va écouter FF Bada de Battles.
La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et nous sommes toujours en compagnie de Nicolas Dupont-Aignan qui vient nous parler des régionales. Victor, tu voulais poser une petite question au candidat. Valentin, pardon. Je dis Victor en regardant Valentin. Valentin.
Alors, monsieur Dupont-Aignan, l'Île-de-France est la région la plus avancée en France, mais aussi en Europe dans le numérique, avec 20 000 entreprises dans ce secteur et à peu près 200 000 salariés, un tout petit peu moins. Et c'est la région qui est en charge de l'aménagement numérique. Vous souhaitez développer le télétravail. Vous pouvez-vous être un peu plus concret, s'il vous plaît, développer votre idée ?
C'est très simple. Je suis la première ville hors Paris à être entièrement câblée en très haut débit. C'est une révolution. J'ai beaucoup d'habitants qui maintenant, leurs boîtes même, leurs entreprises, leur disent « vous pouvez rester une journée, travailler chez vous ». Ça, c'est une révolution. Et je veux qu'on câble très haut débit toute la région en commençant par les zones les plus éloignées. C'est une révolution parce que ça permet de travailler de chez soi, ça permet d'envoyer des plans, des images. On a un débit exceptionnel. J'ai eu la chance d'arracher ce câblage à Orange, pourquoi pas le dire, pour une expérimentation. C'est extraordinaire. Voilà, je veux généraliser ça.
D'accord. Alors juste.
Et ça coûte beaucoup moins cher que le super métro du Grand Paris. Ça coûte beaucoup moins cher que des infrastructures routières.
D'accord.
C'est extraordinaire.
Mais juste encourager les gens à rester chez soi.
Non, mais pas obligatoirement. Je ne veux pas les forcer à rester chez eux. Mais vous savez très bien, on est maquettiste. On est maquettiste. Mais il y a quantité de métiers. La société de demain, elle sera différente. Tout le monde ne sera pas au même moment.
Et combien d'emplois ça va concerner, ce télétravail?
C'est considérable. Mais ce n'est pas un télétravail permanent. Il n'est pas question de dire aux gens, vous allez travailler que derrière un écran. Il s'agit, dans une région très vaste, très peuplée, 12 millions d'habitants, avec des dizaines de millions, de centaines de millions d'heures perdues, dans les embouteillages, dans le métro, dans le RER, il s'agit de libérer les emplois du temps. Combien de réunions inutiles ? Combien de travaux inutiles ? Combien de déplacements inutiles ? Est-ce qu'on peut anticiper le monde de demain ?
D'accord. Alors, si on peut réfléchir, oui. Le lien social de demain sera probablement numérique.
Pas seulement, j'espère
pas. Pas que, mais bon, mais c'est dans l'idée, quoi.
Quel est l'intérêt de passer 2 heures le matin entre Melun et La Défense, de revenir 2 heures le soir avec des trains supprimés, l'angoisse et tout, alors qu'on aurait pu faire parfois, pas tout le temps, une journée de travail au calme, chez soi, avec un système de très haut débit fabuleux.
Est-ce que vous
c'est
pourriez...
ce qu'on fait chez moi déjà, là, à 20 km de Paris.
Est-ce que vous pourriez vous pourrez mettre en place ce système oui. de télétravail directement pour les agents de la mairie de hier, par exemple ?
Pourquoi pas ?
Pourquoi pas ? Ça pourquoi peut pas s'appliquer à un certain nombre de
mais
tâches des agents
mais
publics ?
Il y a plein de tâches qui peuvent être faites comme ça. Mais d'ailleurs, tout le monde, vous savez très bien que le numérique, c'est une révolution des comportements. Le système taylorien, où tout le monde arrive à la même heure, est complètement absurde. Il faut un peu de liberté. Ça ne veut pas dire, attention, qu'on va mettre les gens cloîtrés chez eux. C'est une possibilité.
Mais ce télétravail, c'est un petit peu l'employeur quand même qui dit aux salariés quand est-ce qu'ils travaillent,
non, attendez,
les heures de travail.
Vous savez, chez moi, ce n'est pas les employeurs qui l'ont dit, c'est les salariés qui ont demandé.
Il faut quand même négocier avec les employeurs.
Bien
pour,
évidemment.
C'est un petit peu compliqué.
Mais vous
ça.
Avez plein d'espaces partagés qui sont en train de se créer, ce qu'on appelle les coworking, qui sont en train de se créer près des gares, parce que c'est tellement plus simple. On ne travaillera pas dans 20 ans de la même façon. Moi, je suis toujours surpris d'un monde politique qui n'anticipe pas le monde de demain. Toujours surpris. Voilà, je pense qu'on doit l'anticiper. Et ça coûte tellement moins cher. Avec 100 millions d'euros par an, on peut en 5 ans câbler en très haut débit toute l'Île-de-France. Les opérateurs doivent payer aussi parce qu'ils gagnent de l'argent. Hein. Il s'agit juste d'abonder. Et je veux qu'on le fasse de manière juste. Est-ce que vous trouvez normal que dans certaines cages d'escalier à Paris, il y a 3 opérateurs qui câblent en très haut débit et que nous, mais à 10 km, il n'y ait personne. Est-ce que vous trouvez normal ce système ? Vous savez ce qu'ils ont fait en Suisse ? En Suisse, ils ont nationalisé les réseaux et il y a des opérateurs, mais il y a un réseau unique pour éviter de câbler 3 fois le même immeuble et d'avoir des zones où il n'y a rien. En Allemagne, il y a un ministère des réseaux.
Donc il faudrait nationaliser les télécoms.
Pas nationaliser, il faudrait qu'il y ait un réseau unique. Quel est l'intérêt de tirer de la fibre optique ? Des réseaux parallèles. Vous avez une tâche de léopard aujourd'hui. Vous avez les beaux quartiers. Ah ben, ça, Paris, il n'y a pas de problème. Mais il y a 2 millions d'habitants à Paris et il y en a 10 ailleurs. Ils sont dans la préhistoire en matière de haut débit. La préhistoire.
Faisons sortir la
c'est
région
normal,
de la
dans
préhistoire.
C'est normal dans la région capitale du monde.
Nous sommes désormais à une époque un peu
mais pour
plus
les
avancée.
Étudiants, c'est important aussi.
Ouais.
Mais j'aimerais
et
qu'on parle un peu plus de politique,
temps,
Nicolas
Dupont-Aignan. Dans des bibliothèques surchauffées et pleines. Quand je pense qu'on fait la queue pour entrer dans une bibliothèque. Mais c'est dément. Ça, c'est un scandale public.
Alors, scandale
quand passe,
public,
quand
peut-être
quand je passe devant des bibliothèques et je vois des étudiants. Déjà, c'est casse-pied d'étudier. Et je me souviens, moi, je préfère aller au café qu'aller étudier. Mais en plus, faire la queue...
Alors ça, c'est une révélation,
café,
Nicolas.
Faire la queue
on
dehors.
Préférait
on travaille très bien dans
des
les cafés.
Cafés plutôt
on
que de travailler
café.
En bibliothèque.
Mais faire la queue pour aller travailler dans le froid. Mais je me dis, mais on... C'est la préhistoire, là aussi, excusez-moi.
Et pourquoi pas augmenter les budgets des universités,
mais bien sûr.
Peut-être
mais
puisque
bien sûr.
C'est une compétence de la région.
Oui, mais la région n'a plus beaucoup de sous, donc il ne faut pas faire de la démagogie. Mais en revanche, c'est à l'État, d'assurer, c'est à l'État d'assurer l'avenir des universités françaises, c'est la compétence de l'État. Et moi, je ne suis pas un homme politique qui va promettre tout et n'importe quoi. Je veux qu'on se concentre sur les transports, parce que ça, c'est le boulot de la région. Le haut débit, la sécurité, qui est très importante, et la formation professionnelle, les lycées, la formation. Si déjà la région fait bien son boulot, si chacun fait bien son boulot dans notre pays, ça ira peut-être mieux.
Alors j'aimerais qu'on parle un peu de politique, j'allais dire politique presque politicienne dans cette émission, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'Émeric Choprade, qui fut, puisqu'il a quitté le Front National, l'un des cadres du parti, a parlé ces derniers jours d'un grand rassemblement à droite. Il aimerait bien faire un grand rassemblement à droite avec Nadine Morano, Philippe Devilliers, qu'il trouve très vertical. J'aimerais lui poser la question pour savoir exactement ce que ça veut dire. En l'occurrence, il pense ce grand rassemblement de la droite avec vous, Nicolas Dupont-Aignan. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez pensé ? C'est quelque chose auquel, voilà,
mais
ça vous fait envie ?
Mais ce rassemblement, il existe, c'est Debout la France qui rassemble.
Non, c'est pas exactement
mais
à ça qu'il pensait.
Oui, évidemment.
Mais on parle quand même de quelque chose avec le Front National dans l'équation.
Ah, Debout la France existe parce que je suis gaulliste, républicain. Je veux offrir une alternative qui ne soit ni le système PS, UMP, Républicain, qui a mené la France à la ruine, ni le Front National, et j'en ai assez de ce piège. On veut enfermer les Français dans soit vous continuez avec des nuls, soit vous partez au Front National. Et c'est parce qu'il y a ce piège et l'absence d'une autre alternative suffisamment forte que j'essaye de bâtir, que les Français s'abstiennent. Parce qu'il y a 50% d'abstention. 22 millions d'électeurs s'abstiennent. Donc, moi, j'estime que je fais mon boulot avec tous ceux qui m'accompagnent, et on est en très forte croissance, pour que, justement, on puisse enfin balayer ceux qui sont des incompétents notoires et qui ont vraiment gâché le pays depuis 20 ans, sans pour autant aller au Front National.
Vous ne répondez pas tout à fait à la question, Victor.
Ben si, mais vous avez bien compris la réponse. La réponse, c'est que moi, j'ai une offre politique qui répond à ceux...
Qui se suffit à elle-même, du coup.
Mais non, mais qui progresse avec des gens qui viennent d'ailleurs de la gauche, de la droite, des gens raisonnables qui veulent changer le pays sans pour autant appartenir au Front National. Je... n'est jamais diabolisé le Front National, mais on a encore le droit de ne pas y être.
Monsieur Dupont-Aignan,
quand même.
Monsieur
Nicolas... Et je vois d'ailleurs Monsieur Chopin l'a quitté.
Monsieur Dupont-Aignan, juste, alors l'idée d'un programme commun défendu par l'ancien directeur des Jeunes de la Droite Populaire, qui réunirait la droite des Républicains, de LF et le Front National, ce n'est pas
si
possible.
Si on a les défauts, vous savez, vous connaissez l'histoire, si on a les défauts, si on cumule les défauts des deux, ça va être chouette.
Pourtant, vous avez apporté votre soutien, par exemple, à Robert Ménard, qui
est aussi supporté par le Front National.
Enfin, vous partagez beaucoup de valeurs avec le Front National.
C'est pas la meilleure chose que vous ayez faite.
Attendez, Robert Ménard, quand je l'ai soutenu, n'était pas le Robert Ménard qu'il a été après. Je l'ai dit. D'ailleurs, je l'ai pas soutenu au cantonal. Mais dans la vie, il faut que les hommes politiques arrêtent de se croire parfaits, de dire qu'ils ont tout fait bien. Je prends ma part d'erreur.
Il y a un droit à l'erreur.
Il y a un droit à l'erreur, surtout quand les autres changent. Le tout dans la vie, c'est de jamais commettre deux fois la même erreur. Et moi, je vous le dis, si on n'est pas capable d'inventer une alternative au système qui a échoué, qui a créé ces millions de chômeurs, l'insécurité, qui est incapable de résoudre la crise migratoire, qui, je peux vous le dire, vous aurez une réaction d'une violence inouïe de notre population, de notre peuple. Et mon boulot, avec tous ceux qui m'accompagnent, qui sont des gens de terrain, des associatifs, tiens, en Ile-de-France, il y a le président de l'association des usagers, Jean-Claude Delarue, qui nous soutient. C'est l'association des usagers des transports, c'est quand même très important.
Ils ne représentent pas tous les usagers.
Enfin, non, quand même, la principale association, le plus connu, celui qui se bat depuis 40 ans, il nous a rejoints. C'est pas par hasard. Il y a beaucoup de gens qui nous rejoignent parce que nous sommes un rassemblement.
Donc là, vous parlez de personnalité de la société civile, Nicolas Dupont-Aignan. Vous avez dans le paysage politique français aujourd'hui Nadine Morano, qui se dit gaulliste et souverainiste. Est-ce que vous pourriez l'accueillir dans votre rassemblement ?
Nadine Morano est toujours la bienvenue, mais je vais vous dire. J'ai par exemple la tête de liste à Paris. Ma tête de liste à Paris, c'est Stéphanie Gibaud. C'est une femme qui est lanceuse d'alerte, qui a combattu les fraudes fiscales monstrueuses de la banque suisse UBS. Je l'ai rencontrée quand j'ai fait mon rapport parlementaire de député sur les fraudes fiscales. C'est une femme courageuse. J'étais un des seuls à soutenir Falciani et Stéphanie Gibaud avec Eva Joly d'ailleurs. Nous étions les deux hommes politiques, à le faire. Je lui ai demandé d'être ma tête de liste à Paris. J'ai beaucoup plus confiance en Stéphanie Gibaud pour faire le ménage à la région Île-de-France, changer de comportement, inventer le monde de demain, que dans des vieux crabes politiques X ou Y du passé. Et je ne cite personne, je pense à personne, c'est pas
pourtant
la question.
Vous-même, vous êtes issu du sérail entre guillemets politique. Enfin,
et
vous avez fait
et alors,
carrière...
j'ai été réélu à 80% des voix à toutes mes élections locales. Les gens ont confiance. On a un parti, je l'ai fondé de rien. J'ai quitté l'UMP quand Sarkozy a été élu. Tout le monde était en train de lui cirer les pompes. Je suis parti. J'ai fait ce que je devais faire parce que j'avais voté non à la Constitution européenne avec le peuple français et que j'estimais qu'on n'avait pas à lui imposer ce qu'il avait refusé.
J'ai
fait mon boulot. J'ai des gens qui me rejoignent. On peut me critiquer sur plein de trucs, mais nous avons été, je ne suis pas seul, courageux. On a 1 million d'électeurs qui nous suivent régulièrement. On nous dit, vous n'avez fait pas beaucoup de voix, 1 million aux européennes, 4,5% en métropole. Nous progressons dans les sondages, là on est entre 6 et 9% au régional, mais pourquoi on devrait voter toujours pour les mêmes ?
Alors moi, vous critiquez beaucoup l'Union Européenne, ça n'a plus rien à voir avec la région, mais vous critiquez beaucoup l'Union Européenne.
Ah oui.
Pourquoi je ne vous entends pas souvent parler de l'article 50 qui nous permettrait de sortir tout simplement de l'Union Européenne ?
Parce que la France est libre et n'a pas à obéir à un article 50 à la noix d'un traité illégitime. Le peuple français a refusé la Constitution européenne. Les dirigeants ont trahi la confiance du peuple. La France est libre, Elle peut dénoncer tous les traités, elle n'a pas besoin d'obéir à un article 50 X ou Y. Je suis pour l'Europe, mais une Europe des projets, qu'on fasse la voiture propre, qu'on fasse les nanotechnologies, qu'on fasse le haut débit, très haut débit de l'avenir, le panneau solaire de demain. L'Europe dont je rêve, c'est une Europe des projets et des nations libres. C'est d'ailleurs l'évidence, c'est des démocraties adultes, on vote dans son pays et on travaille ensemble. Il y a ceux qui ne veulent pas du tout de l'Europe. On m'a caricaturé anti-européen, c'est complètement débile. Je ne suis pas anti-européen, je suis contre la dictature d'une Union européenne financière, bureaucratique, où les hommes politiques sont des pantins, vous prenez la gauche, la droite, c'est les mêmes, puisqu'en fait, ils obéissent à des... À des lobbies.
Écoutez,
à des
lobbies. Non élus. En tout cas, pour l'instant, nous parlons plutôt des régionales, voilà. Nicolas Dupont-Aignan. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre
d'ailleurs,
à ces quelques questions.
D'ailleurs, les régionales, un instant, démocratie.
Oui.
Il y a deux tours. Je m'insiste parce que j'ai vu Mme Pécresse qui m'interdisait de me présenter que c'était une faute morale. C'est la meilleure de l'année. Oui, elle a dit que j'étais une faute morale. Alors, vu les fréquentations qu'elle a de mise en examen. Bon, donc, une faute morale. Mais attendez, au premier tour et au deuxième, je l'espère, on a quand même le choix, le droit d'avoir le choix. Ça voudrait dire, moi je combats la gauche, mais je vais être très franc, si c'est pour combattre la gauche et puis retrouver les revenants qui ont échoué, c'est des fausses alternances.
Donc vous n'appellerez à voter pour personne.
Non, mais j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'au premier tour, il faut que les électeurs qui ont des convictions, des valeurs et qui veulent changer les choses, soient pas obligés de voter toujours pour les mêmes.
Encore faut-il qu'ils puissent avoir tous les programmes politiques pour pouvoir se faire une idée. Ils seront donc disponibles dès lundi. Le site internet de votre parti, Debout la France, je vais y arriver. Cette interview touche malheureusement à sa fin, nous sommes d'ailleurs déjà très en retard, mais merci encore Nicolas Dupont-Aignan d'avoir été avec nous pour parler des régionales, de politique, de souverainisme, de Front National d'Europe et d'autres choses encore que vous pourrez réécouter très bientôt en podcast sur Radio Campus Paris.
Radio Campus Paris.